J'arrive au grand 2, la fumée qui monte du puits de l'abîme. Nous allons reparler de ces mêmes phénomènes que nous avons vus, de Dieu qui revient, mais en nous centrant non sur Dieu, mais sur le rôle du diable et de ceux qui le suivent. Sur le rôle de ceux qui prennent des mauvaises décisions, qui sont casse-pieds, angoissants, qui sont horripilants, qui nous pourrissent la vie, on pourrait dire. Notre Seigneur Jésus en parle lors de son discours eschatologique présent dans les évangiles synoptiques, Marc, Luc et Matthieu, mais il ne parle que des rumeurs de guerre et de l'angoisse. Et le passage central, du coup, sur cette question, est le livre de l'Apocalypse au chapitre 9. Alors, grand 2, petit 1, le puits de l'abîme dans le livre de l'Apocalypse. Le cinquième ange fit sonner de la trompette. Je vis une étoile précipitée du ciel sur la terre, et il lui fut donné la clé du puits de l'abîme. Elle ouvrit le puits de l'abîme, et il en monta une fumée, comme celle d'une grande fournaise. On raconte ensuite l'effet de cette fumée. La fumée obscurcit le soleil, elle obscurcit l'air, et elle contient des genres de sauterelles qui ont une capacité phénoménale à faire souffrir ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu. Alors, obscurcir le soleil, la fumée obscurcit le soleil, ça peut être vu comme le fait de masquer ce qui est vrai, de faire naître du mensonge et de faire naître de la désobéissance. Parce que le soleil, ça peut représenter aussi nos responsables. On masque le soleil. Obscurcir l'air, ça peut être vu comme le fait de prendre toute la place et d'être au centre des préoccupations. On a parlé des rumeurs de guerre, c'est-à-dire des sujets dont on va parler toute la journée d'une manière démesurée. La fumée, qui est sous forme de sauterelle, va tourmenter les hommes, sans doute par l'angoisse, mais aussi la colère, la désespérance, la sensualité exacerbée. En fait, c'est comme si c'était un genre d'insecte qui allait faire produire aux hommes des mauvais fruits et les tourmenter d'une force très, très particulière. Ce passage s'accomplit à la fois dans la période du début des tribulations, où nous sommes, ce qui correspond au début du discours eschatologique de Jésus, mais aussi lorsque les choses vont s'aggraver. En effet, pour le moment, je pense qu'on est dans les pré-tribulations. On est dans cette première période, en fait, de 3 ans et demi. Effectivement, c'est une période qui est déjà difficile, mais ça reste pour la plupart d'entre nous quand même léger, dans le sens où les épidémies ne tuent pas encore une personne sur deux. Les guerres ne frappent pas des millions de personnes. Vous voyez, il y a en fait vraiment deux périodes de la tribulation s'opère en 2 fois 3 ans et demi. C'est ce que dit la Bible en tout cas. Le soleil en fut obscurci ainsi que l'air de cette fumée. Bon, donc ça c'est tout le passage. Donc je reviens à cette fumée noire. Le livre du Deutéronome apporte encore des précisions là-dessus. Dans Deutéronome 32, 21. Ils m'ont donné pour rival ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont offensé par leurs vaines idoles. Eh bien, moi, je leur donnerai pour rival ce qui n'est pas un peuple. Par une nation folle, je les offenserai. Cette fumée, ces sauterelles, ces nations folles, vont pouvoir être vues comme plusieurs choses. C'est bien sûr des démons. Moi, c'est une interprétation qui me vient assez rapidement, je pense. Qui vont déferler sur la terre. L'ange qui ouvre le puits de l'abîme représente l'ensemble des personnes qui commettent des péchés graves, qui ouvrent béante la gueule de l'enfer. Des péchés graves ou des sortilèges, des choses gravement contraires à la vie. Mais aussi, ça va représenter des objets sans vie. Alors je repense au masque, parce que en fait c'est... on nous oblige à porter, et qui crée tant de tensions, d'angoisse et de colère, alors qu'il s'agit d'un objet bête, je dirais. Il y a un côté drôle, en fait, presque, d'être tourmenté par quelque chose d'aussi bête que ça, quoi. Il y a un côté fou, en fait. Puisqu'ils m'ont offensé par leurs vaines idoles, je vais les offenser par quelque chose qui est une idole, et qui n'est rien, et qui est tellement bête qu'on peut pas s'énerver contre lui, quoi. Je pense aussi aux ordinateurs, quoi. Il y a un côté drôle. Si vous tapez sur votre écran d'ordinateur, ça va empirer la chose plutôt qu'aider, quoi. La fumée infecte, c'est avant tout, je pense, le diable qui va imiter Dieu avec cette fumée. Il fait monter une fumée, mais au lieu que ce soit une fumée de sainteté, une fumée qui sent bon et qui nous invite à finir de nous préparer, c'est un nuage infect qui nous incommode, qui nous repousse, qui nous donne des nausées. Petit 2, cette fumée infecte au moment des plaies d'Égypte. Alors, on avait parlé de ça. Les mauvaises lois promulguées par Pharaon, qui est angoissé par la présence du peuple de Dieu, il va transposer cette angoisse en créant des sujets. Il va imposer au peuple une construction injuste, ces deux entrepôts, Pithom et Ramsès. Il va contraindre les Hébreux à réaliser des tâches les plus ingrates. Il va organiser le meurtre des enfants hébreux petit à petit. Il ne va pas protéger son peuple contre les fléaux envoyés par le Seigneur, alors qu'il est prévenu régulièrement par Moïse, par la miséricorde de Dieu, pourrait-on dire, par Moïse et Aaron, pour en éviter une partie. Pharaon fait monter une fumée qui empoisonne son peuple. Et on imagine les rumeurs de guerre, c'est-à-dire que tout le monde a dû parler des travaux forcés injustes, et ensuite tout le monde a dû remplir toutes ces discussions avec cette angoisse liée au meurtre des enfants hébreux, ça devait être terrible. Et puis après, tout le monde a dû parler du fait que Pharaon ne les protégeait pas. Et en définitive, est-ce que un des premiers empoisonnements n'est pas que le peuple perde confiance en Pharaon? Et comme Pharaon représente Dieu sur terre, si le représentant de Dieu sur terre est défaillant, comment est-ce que le peuple va-t-il faire la rencontre de Dieu? C'est le soleil qui s'obscurcit. Voilà, un des torts, si les responsables se corrompent, c'est que la foi va s'évanouir beaucoup plus vite. Parce que c'est très dur d'aimer des gens qui nous commandent et qui vont nous commander mal, clairement, et qui vont avoir une attitude offensante vis-à-vis de nous. La foi de nous par rapport à Dieu. En fait, notre foi, elle va aussi passer par le fait d'arriver à aimer ses responsables, ses parents, ses grands-parents, son curé, tous les gens qui, à un moment, ont une responsabilité sur nous. Même si elle est passagère, parce que c'est l'agent qui est devant le marché, on va passer devant lui, et pendant un moment, on va être sous sa responsabilité. Et en fait, si j'arrive à l'aimer comme un responsable qui, à un moment, est responsable de moi, même si c'est une responsabilité très limitée, eh bien, ma foi va être plus forte, en fait. Parce que c'est comme si Dieu, à travers ce responsable que j'avais eu à un moment donné, m'avait visité. Et quand on a du mal à aimer ses parents, c'est un problème. Souvent, les plus grands athées sont des gens qui étaient en grand froid avec leur père. Voilà, c'est une constante. Ça, c'est le signe du soleil qui s'obscurcit, que je détaillerai, mais qui est un sujet vraiment brûlant pour aujourd'hui. On pourrait citer aussi Élie à l'Horeb. Vous savez, le prophète Élie va être confronté à bien des désagréments, tous les faux prophètes. Il va boire des couleuvres, en fait, à travers tous ces faux prophètes avec qui il va se mesurer. Il va souffrir terriblement de ce mensonge ambiant, du pouvoir corrompu de Akab et Jézabel. Et on voit qu'il va être pourchassé. Il va être, je dirais, complètement dérouté par cette fumée, en fait, par une vision très noire de ce qui se passe, que quoi qu'il fasse, les ténèbres semblent gagner, vous voyez. Et il va être confronté à Dieu et à cette montagne qui fume avec l'ouragan, la tempête, etc. Et Dieu va lui montrer que lui, il préfère se manifester dans le fin silence. On va retrouver cette idée que le Seigneur préfère toujours le silence. Même si c'est vrai que Job, par exemple, il va se révéler à Job dans l'ouragan. Donc on voit qu'il est aussi dans l'ouragan. Donc il faut croire Dieu est dans l'angoisse et dans la situation angoissante, mais c'est parce qu'il faut réussir à écouter le silence même dans cette angoisse, quoi. Mais il préfère le silence. C'est-à-dire le moment où on n'a plus cette angoisse et où on le retrouve, en fait. Donc je vais passer au petit 3. La cause de l'ouverture du puits de l'abîme. La cause de l'ouverture, je pense, est que notre pays devient rempli d'offenses à l'égard du Seigneur. C'est dit dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 50-51, qui est un des textes qui nous parle de Babylone. Babylone qui va symboliser la mise en place de toutes ces structures de péché. L'ouverture du puits de l'abîme, je le répète, va, je pense, être provoquée par le fait que le pays se corrompe peu à peu et que des choses mauvaises dans le fonctionnement de nos villes, de nos cités, de nos groupes humains se mettent en place et qu'on soit de plus en plus mis en difficulté pour fonctionner avec droiture, quoi. Voilà, c'est ça, je pense, qui va... Alors, je parlais du péché, mais le fait que le pays soit imprégné de péché, que la création aussi, avec la pollution, on le voit bien, la nature, tout est connecté, quoi. Et quand on étudie les textes sur Babylone, on retrouve 5 quartiers dans ce mode de vie. C'est comme si nos cités étaient de plus en plus alignées sur ce modèle qui, au lieu de nous libérer comme le font les quartiers de la Jérusalem céleste, nous conditionne et nous enferme. Ces 5 quartiers sont les suivants. Le premier, c'est l'opulence. L'opulence, c'est qu'on prend l'habitude de se laisser dominer par les produits raffinés, les aliments toujours plus riches, haut de gamme, les technologies toujours plus avancées, ce qui va nous amener à ne plus nous nourrir d'abord grâce au Seigneur, tout le temps connecté avec le ventre plein, c'est plus dur de se connecter au Seigneur, et puis de commettre des injustices par rapport à nos frères et sœurs plus pauvres, qui auraient besoin peut-être qu'on les aide financièrement ou par du temps à leur consacrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de consommer des aliments qui respectent le producteur, qui vont respecter la planète, qui vont respecter l'équilibre entre les pays riches et les pays pauvres. Il va être de plus en plus difficile, même notre argent en banque, la plupart des banques utilisent l'argent pour spéculer. Donc il y a déjà un péché dans beaucoup de choses que nous faisons sans même nous en rendre compte. Ça devient en fait à cause de cette opulence. Le deuxième quartier de Babylone, c'est la corruption. À cause des excès dans l'alimentation, les loisirs, etc., on va corrompre petit à petit notre rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on va prendre l'habitude de juger les autres, de critiquer, on va plus respecter nos responsables, on va plus prier pour eux, et puis eux, comme ils n'ont plus notre prière, ils vont se mettre à nous mentir et à être odieux. Deuxième quartier de Babylone, de nos villes qui se transforment peu à peu malheureusement, c'est la corruption des rapports humains. Troisième quartier, la violence. On prend l'habitude de devenir tyrannique pour nos conjoints, pour nos enfants et pour toute personne. On ne se rend plus compte de toutes les critiques qu'on se permet contre les autres dès qu'on se sent heurté. La violence. Quatrième, la fraude. C'est le fait de faire tout par intérêt, avec toujours quelque chose de précis qu'on va gagner, et d'utiliser l'hypocrisie sans être gêné. De perdre peu à peu le sens de la gratuité et d'être vrai avec les autres. D'ailleurs, on le voit de plus en plus qu'un certain nombre de gens sont étonnés de la gratuité. Quand on va faire quelque chose de gratuit, ça crée un temps de silence parce que c'est comme si on cherchait quelque chose, quoi, alors que pas forcément. Oui. Cinquième quartier de Babylone, l'idolâtrie. C'est le fait d'être injuste, injuste aujourd'hui, et c'est dur de le voir parfois, c'est la négligence dans notre vocation, par exemple faire garder nos enfants d'une manière excessive, ou les abreuver d'écran à l'excès au lieu de prendre du temps pour eux, c'est tricher vis-à-vis de notre employeur, c'est négliger nos paroissiens si on est prêtre, ou négliger notre peuple si on est responsable, ou négliger les gens de notre équipe, si on est manager, alors que notre rôle premier, ce serait de prendre du temps avec les gens de notre équipe, donc c'est une injustice progressive, et puis de commettre des péchés d'idolâtrie, c'est-à-dire d'aller chercher des solutions dans la magie, les enchantements, la voyance, les horoscopes, la pornographie, en fait, dans des solutions bis qui ne vont pas nous aider. Donc l'idolâtrie, ça se regroupe sous le nom de l'idolâtrie, injustice et idolâtrie. Donc, les villes se transforment de plus en plus de cette manière-là. L'opulence, la corruption des rapports humains, le fait d'être violents les uns avec les autres, d'utiliser la fraude avec l'hypocrisie et l'idolâtrie avec l'injustice. L'humanité Donc, fausse ses rapports et ouvre de plus belle les bouches de l'enfer, faisant entrer dans le monde cette fumée diabolique. Je renvoie sur ce sujet un article qui s'appelle « Faut-il fuir les villes ?» où j'étudie dans le temps comment se passe cette corruption progressive des villes avec des exemples, notamment Lot fuyant Sodome, par exemple, avec les anges. La conclusion de cet article, si on doit le résumer en une phrase, c'est que l'idée n'est pas de se faire des réserves et de dire « vite, on déménage », un peu comme si on était devant la montagne, en fait, mais plutôt de dire « je vais essayer de sortir de la Babylone symbolique », c'est-à-dire d'être droit dans mes bottes sur les 5 quartiers que j'ai nommés tout à l'heure, et puis les 4 que j'ai nommés aussi tout à l'heure par rapport à l'attitude devant la montagne, pour, quelque part, que mon fonctionnement le plus irréprochable possible me rende... Alors, ça peut passer, évidemment, par fuir certains groupes humains, comme on a vu, par exemple, si je fais le choix d'être non vacciné, admettons, et ben, momentanément, il va me falloir être juste et vrai et fuir les trains et puis les lieux où on demande le pass, parce qu'il faut rester vrai. Si, à l'inverse, je suis vacciné, je vais peut-être avoir d'autres contraintes ou d'autres... je vais peut-être me protéger en fuyant des groupes de personnes qui critiquent les gens vaccinés, par exemple. Vous voyez, donc on va fuir certains lieux pour lesquels on sent qu'on n'est pas en paix, et un jour, peut-être, le Seigneur nous dira « Attention, maintenant, il faut que tu déménages, il faut que tu bouges, il faut que tu ailles vivre ailleurs, il faut que tu achètes des choses spécifiques. » Vous voyez, le Seigneur nous donnera un signal. Mais cette fuite physique arrive dans un deuxième temps. Il est dit, c'est une promesse faite dans un des prophètes, je crois que c'est Isaïe, si je ne me trompe pas, c'est « Ce n'est pas dans la précipitation qu'ils auront à fuir, ça sera dans la jubilation. » C'est une promesse faite aux personnes qui mettent de l'ordre dans leur vie, qui fuient Babylone en mettant de l'ordre dans leur vie, qu'ils ne seront pas pris par surprise quand il faudra déménager, s'ils doivent déménager. Ils seront prévenus par le Seigneur, et donc ils n'ont pas à s'inquiéter, puisque je dirais que les cataclysmes qui vont s'abattre dans la deuxième tribulation, la deuxième période de 3 ans et demi, ces cataclysmes sont destinés à secouer, comme on l'a dit la dernière fois, ceux qui sont vraiment loin du Seigneur. C'est les élus, ils sont plus appelés à se purifier, mais c'est pas eux qui sont destinés à être secoués, ils n'en ont pas besoin. Bon, je referme la parenthèse sur la fuite de Babylone. Petit 4, cette fumée infecte qui monte du puits de l'abîme. Alors, plusieurs interprétations que je relève concernant cette fumée qui envahit tout. Première interprétation, les rumeurs de guerre, dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire des sujets qui contiennent à la fois une part de vérité, et une grosse part d'exagération, et une part de mensonge. Et ils vont occuper toute la place, ils se mettent à nous préoccuper, à nous déstabiliser, afin de détourner notre attention, en disant par exemple que le monde court un grave danger avec le président Trump, en disant que nous courons un grave danger au contact de nos frères et sœurs, car tout ce qu'il faut retenir d'eux est qu'ils peuvent nous contaminer avec un Covid. En disant que le seul et unique responsable des morts en Ukraine est le président Poutine, et que de ce fait, il mérite notre colère et nos insultes. On va présenter toujours quelque chose qui part de quelque chose de vrai, qui est, par exemple, il y a des personnes en difficulté, puisqu'une guerre a éclaté, admettons. Et puis on brode, et puis on va désigner quelqu'un comme coupable, on va présenter les choses de manière très univoque, avec un seul discours, et puis en fait quand on va écouter ça, ça va provoquer, comme on le disait, colère, angoisse, etc. Parce que comme il y a une part de mensonge là-dedans, on ne peut pas accueillir les choses avec sérénité, quoi, en fait. Et quand on va chercher des informations, peut-être pour trier les rumeurs de guerre, est-ce que c'est une rumeur de guerre ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut prendre avec plus de circonspection ? Eh bien, je pense qu'être à l'écoute de notre cœur pour sentir si ce qu'on lit c'est angoissant ou si ça nous angoisse pas particulièrement, c'est un vrai signe déjà. Donc première interprétation de la fumée, les rumeurs de guerre. Deuxième, l'atmosphère hypermédiatisée qui contient une propagande constante, avec de la sensualité, de la violence, de l'angoisse. Les publicitaires se régalent dans notre période parce qu'ils utilisent des ressorts qu'on n'aurait pas imaginés, qui vont nous souiller ou nous rendre en colère ou nous complexer. Il suffit de regarder les affiches des arrêts de bus. les publicités à la télé, ou même les films, les publicités sur les réseaux sociaux, etc. Troisième interprétation de cette fumée noire, l'envahissement de l'espace par des choses profondément addictives et qui excitent nos sens, type pornographie, politique, jeux, etc. Par exemple, la politique, on a tendance à tout politiser, à dire c'est un risque quand on est responsable politique, c'est de tout utiliser comme information. Est-ce que ça va m'aider dans l'image que je vais donner aux gens? On perd le sens de la gratuité, en fait. C'est la tentation qu'on a aujourd'hui quand on est homme politique. Et donc, on va tout politiser, on va tout voir comme non pas une décision pour le peuple, mais une décision pour mon image, quoi. C'est la tentation, même à l'échelle individuelle, hein. Et nos politiques font la même chose que nous, en plus grand, quoi. Quatrième interprétation de cette fumée, c'est que même les choses qu'on considère d'habitude comme saines ont aujourd'hui une partie qui est profondément corrompue. Par exemple, la science. Normalement, un scientifique est toujours prêt à se remettre en question au niveau de ses propres convictions parce qu'il est ouvert. Il est ouvert à d'autres expériences qui vont peut-être démontrer qu'il avait mal approché la vérité et qu'il va falloir qu'il réévalue sa position. D'une manière, complètement réévaluer la position ou peut-être redéfinir sa trajectoire. Eh bien aujourd'hui, il y a certains sujets sur lesquels vous allez mettre en colère les scientifiques. Par exemple, si on dit la théorie de l'évolution, c'est-à-dire le fait que les espèces évoluent au cours de millions d'années et que ça crée une nouvelle espèce. Si vous dites à un scientifique, cette théorie, ça reste une hypothèse, j'étais étonné de voir qu'un certain nombre, ça provoque un énervement important. Alors que si on se penche sur la paléontologie, c'est-à-dire les traces laissées par des êtres animés, et si on se penche sur la génétique, aujourd'hui on ne trouve pas d'explication satisfaisante qui montre qu'il y a cette théorie de l'évolution qui est vérifiée. Je vais donner un exemple. Deux hommes peuvent se reproduire. Moi, je postule que deux hommes se reproduisent. Et on va me dire, mais comment ça se passe? Eh bien, si on les laisse très longtemps ensemble, à un moment, on ne sait pas comment, mais ils vont se reproduire. J'exagère un peu et c'est un peu grossier, mais la théorie de l'évolution nous est présentée comme quelque chose de très crédible, mais en fait, j'invite ceux qui aiment bien la science à regarder concrètement comment se passe l'appariement des chromosomes, comment on imprime une trace et on fait en sorte qu'elle soit recouverte dans le temps et qu'elle perdure. En fait, j'étais étonné de voir que des gens qui avec des arguments très simples, disent, bah, désolé, mais cette théorie-là, aujourd'hui, ne tient pas. Donc la science. Autre élément corrompu, par exemple, même la théologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs dans la théologie. Malheureusement. On étudie la science biblique et puis on va dire des choses qui ne sont pas forcément justes. Et un argument peut-être qui peut nous aider à faire le vrai, c'est de regarder la tradition de l'Église dans le temps. C'est-à-dire que souvent, il y a des traditions, si on se dit par exemple la tradition de l'Église entre l'époque de l'Ancien Testament, donc la tradition juive qui nous a précédés et notre époque à nous, il y a eu donc 20 siècles plus peut-être une dizaine de siècles ou une quinzaine de siècles avant, donc 35 siècles, et ben certains points vont être traités d'une manière pendant 34 siècles ou 33 siècles jusqu'au siècle des Lumières, et depuis 100 ans ou 200 ans, il y a d'autres théories qui contredisent ces 35 siècles ou sur des points théologiques. C'était invariant, quoi. Et dans le monde de la théologie, aujourd'hui, un peu comme dans la science, parce que dans la science, je dirais qu'on peut faire ce même exercice, c'est de se demander, mais la science, c'est plus compliqué, parce que les sciences, il y a toujours des découvertes nouvelles, avec des technologies différentes. Alors que dans la théologie, logiquement, sur la science biblique, la science de Dieu, on doit être censé retrouver des choses quand même un petit peu constantes, vous voyez? Donc, voilà, ça c'est quelque chose vraiment qui vaut le coup d'être fait. Donc la fumée, bah, la franc-maçonnerie qui infiltre tous les milieux, ça je ne vous l'apprends pas, je pense. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, hommes et femmes, se laissent tenter par un humanisme, par qu'on leur présente comme une confrérie qui va avoir la capacité d'apporter quelque chose de grand au monde, en fait, mais qui est coupé de Dieu, et qui petit à petit nous entraîne vers quelque chose de plus en plus grave, qu'on ne réalise pas forcément. C'est une vraie fumée qui se bat contre Dieu, en fait, et qui a infiltré également l'Église, malheureusement, à tous les niveaux. Une autre fumée, c'est que même dans l'Église catholique, une partie des catholiques croit aujourd'hui que le pape lui-même est corrompu. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, on n'a pas forcément les critères, je pense, pour dire est-ce que une personne dévie ou pas. Et un des critères qu'on trouve dans la Bible, dont il faudra que je parle quand j'étudierai le signe des antéchrists, c'est la trace du mal. Et la trace du mal, c'est le fait qu'une personne, sur des sujets fondamentaux, dévie. Et pour dire que notre pape a un gros problème et qu'il faut douter de lui, pour moi, les sujets, je dirais, sur lesquels il faut le plus scruter ce qu'il dit, c'est les sujets en lien avec le dogme, c'est-à-dire l'Eucharistie, la Vierge Marie, Jésus, le fait que Jésus soit Dieu. C'est tous ces sujets vraiment de fond qui sont des sujets importants. En fait, les antéchrists, le jour où les antéchrists viendront, ce sera des gens qui diront l'amour, oui, mais il n'y a pas forcément besoin de Jésus pour aimer, vous voyez. Mais le pape aujourd'hui est un homme, et donc peut-être que sur certains sujets, il va se tromper, parce que comme tout le monde, il peut parfois exprimer des choses qu'on comprend mal, soit il se trompe, soit les médias vont nous présenter les choses de manière tronquée. Mais je dirais que pour nous, ça va être une difficulté si on se met à douter de lui. Dans notre vie spirituelle, ça va être une grave difficulté. C'est une fumée, en fait, qui va s'infiltrer en nous. Sachant que dans cette fumée, il y a aussi beaucoup de choses qui, sans doute, viennent du Vatican, et dans le Vatican, comme il y a aussi des francs-maçons dans le Vatican, malheureusement, il y a des choses qui viennent de ces gens-là qui vont corrompre certaines choses, quoi. Voilà. C'est pas forcément le pape tout seul. Et puis il y a un jeu de pression qui fait qu'il y a des choses sur lesquelles il doit être bloqué, j'imagine. Dernière interprétation que moi j'ai vue sur la fumée, dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est les démons eux-mêmes. La plus grosse partie des démons qui étaient séquestrés en enfer parce qu'ils étaient trop méchants pour l'humanité, eh bien, le péché qui se généralise leur donne le droit de venir tous. Et plusieurs mystiques nous décrivent aujourd'hui que l'enfer est vide parce qu'ils sont tous sur la terre. La fumée qui remplit, qui monte du puits de l'abîme. Petit 5, les conséquences de cet envahissement. Première conséquence, il me semble, il est difficile de résister à l'envie de parler et de réagir, nous aussi, sur tous ces sujets omnubilants dont tout le monde parle. C'est difficile d'être sobre, en fait, dans notre parole. Nous nous trouvons obligés de réagir face à tout ce qui nous arrive dessus, en devenant froid ou brûlant, en fait. On est tenté de prendre parti. Soit à fond pour le masque, soit contre le vaccin, soit contre Trump, soit pour l'Ukraine. En fait, on est tenté, la tentation vraiment, je dirais, pour éviter la diversion qui nous est faite, c'est on est tenté de passer à côté du principal commandement qui est celui de l'amour pour nos frères et sœurs. En fait, on fait comme si on était nous aussi un média et qu'il fallait sortir vainqueur de toute discussion. Alors que la plupart du temps, écouter suffit. Faire nos prêtres, c'est-à-dire on va offrir tout ce que dit l'autre au Seigneur, tout le positif qu'on arrive à voir chez l'autre ou qu'on n'arrive pas à voir, mais on dit « Seigneur, ben, je te présente le positif que je n'arrive pas à voir, pourquoi pas ?» Et plutôt essayer de parler quand on nous demande notre avis, ça veut dire qu'en fait on est appelé à monter sur la montagne pour reprendre l'image de tout à l'heure. Voilà, je suis en face de quelqu'un, donc c'est une difficulté pour moi parce qu'on parle de quelque chose et c'est horripilant ce que la personne est en train de me dire. Peut-être qu'elle me dit des choses que j'estime être des mensonges. J'ai cette montagne qui fume, ça m'énerve, ça m'angoisse, ça me saoule. Bon, tant pis, j'attends. Et quand j'aurai un signal qu'il faut que j'en place une, je le ferai. Voilà, c'est-à-dire c'est un signal que la nuée s'élève et que je peux me frayer un passage, alors que si je parle trop vite, c'est comme si je me faisais tirer dessus par des flèches ou par des pierres. Deuxième conséquence de cette fumée noire qui envahit tout, les addictions qui sont aujourd'hui très dures à corriger. Parce que j'imagine bien, je suis addict à l'alcool, par exemple, ou aux séries, je regarde énormément de séries le soir, je vais avoir je sais pas combien d'esprits mauvais accrochés à moi à cause de ce, cet esprit de rang supérieur, en fait, qui m'habite et qui me pousse et qui me traîne dans la boue pour que je continue à regarder les séries toute la soirée, par exemple. Donc, effectivement, ça demande des moyens peut-être plus forts qu'avant. Il y a le sacrement de réconciliation, mais j'invite aussi à creuser du côté des prières de délivrance pour des choses un peu plus costauds. On a l'impression que c'est juste un péché récurrent, mais en fait, une bonne prière de délivrance dans un groupe de prières, notamment, c'est un vrai moyen, je pense, d'arriver à dépasser une addiction. Et puis, peut-être de demander à des gens qui nous entourent, en toute humilité, comment tu ferais, toi, pour vaincre ce truc-là. Parce qu'il peut y avoir des petites choses à mettre en place pour diminuer des tentations qu'on a. Troisième conséquence de cette fumée noire, nous péchons beaucoup plus facilement, souvent même à notre insu, comme je l'expliquais tout à l'heure, puisqu'il y a des structures de péché. Voilà, mon argent est à la banque. Sauf si je suis au crédit coopératif, eh ben, il y a une partie de mon argent qui va servir pour des choses pas forcément super jolies. Et c'est ce qui explique, je pense, ce temps de silence, qui est un signe des temps aussi. Quand nous prions, on se demande pourquoi le Seigneur ne nous exauce pas plus. On se demande, mais c'est curieux, on a l'impression qu'il est loin, qu'il y a des sujets qui prennent des années, ça fait des années qu'on prie pour certaines choses et que ça n'avance pas. J'avais été touché, moi, par le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 44. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour que la prière ne passe pas. C'est quand même particulier. Tu t'es enveloppé d'un nuage, Seigneur, pour que la prière ne passe pas. Nous entrons de plus en plus dans cette période de silence apparent du Seigneur. Donc, je l'ai dit, hein, c'est cette multiplication du péché qui fait que quand on se retrouve devant le Seigneur en train de lui demander des choses, bah c'est comme si à la fois on sentait mauvais, et puis qu'on s'était pas rasé, et puis qu'on lui écrasait les pieds pendant qu'on lui demandait un truc. Vous voyez, il y a, en fait, parce que sans s'en rendre compte, on est bourré d'imperfections, comme je le disais tout à l'heure. Plus qu'avant, mais il y a une partie, effectivement, qui n'est pas forcément complètement de notre fait. C'est le fait qu'on est participant de toute cette société, de ce monde qui dévie, quoi. Et une dernière conséquence que j'ai vue, par rapport au fait qu'il y a des démons partout, qui envahissent tout l'espace, les démons sont des créatures qui sont voraces et affamées. Ils se nourrissent dès qu'ils trouvent une imperfection chez quelqu'un. Cela veut dire que nous devons déjà voir que les conséquences de nos péchés, nous les voyons beaucoup plus rapidement. Nous sentons beaucoup plus que certaines choses que nous faisons sont mauvaises. Ça, c'est quelque chose qui est typique de notre période, je pense. Comme le buveur évoqué chez le prophète Isaïe, chapitre 24, il est dit « Le vin est devenu amer au buveur ». Donc le buveur, c'est l'habitué du vin, lui son truc c'est le vin, et pourtant il sent que ça lui apporte moins de plaisir qu'avant. Il y a quelque chose qui gratte, quoi. Et je pense que notre période est une période où on voit plus que ce qu'on fait, c'est pas tout à fait juste. En fait, c'est une corrélation, je pense, de cette fameuse alliance nouvelle et éternelle où l'Esprit-Saint vient directement nous enseigner et nous dire « Tiens, t'as vu ça, c'est pas tout à fait juste ». Bon. Le projet du Seigneur est que, comme agit une bonne grippe sur nos toxines, tous nos petits travers soient traqués par cette armée de ténèbres. Du coup, nous devenions obligés de nous positionner par rapport à notre péché, soit en persistant, soit en y renonçant. C'est pour cela qu'on est obligé de devenir ou froid ou brûlant. On l'est par rapport à nos péchés, et puis on l'est aussi par rapport à notre opinion. Comme on l'a vu, c'est comme si on était tous aimantés de manière fortement positive ou fortement négative, et que du coup, c'était de plus en plus difficile de se coltiner certaines personnes avec qui on n'avait pas de difficultés avant. Les difficultés n'étaient pas apparentes. Grand 3. Quels enseignements en tirer, quels remèdes concrets pour notre période? Alors, premièrement, de s'efforcer de voir l'action du Seigneur partout. Je pense, parce que ce ne sont pas d'abord les ténèbres qui sont devant nous et qui risquent de nous désespérer, mais c'est la nuée épaisse qui entoure le Seigneur et qui est en train de revenir. Je pense que c'est quelque chose à demander dans la prière. Seigneur, fais que je vois la nuée et non pas la fumée des ténèbres qui envahit tout. Je repensais à un message que la Vierge Marie avait donné à un mystique et elle disait, quand vous regardez les infos, limitez le temps pour avoir juste les quelques infos dont vous avez besoin et ensuite pouvoir confier ça dans la prière. Parce que dès que, en fait, le défaut, c'est que si on regarde trop les infos, il y a une forme de voyeurisme parce que normalement toute information devrait être utilisée pour prier pour la personne. Quelqu'un me dit, ah ben il y a un tel qui a dit ça, qui a fait ça, et ben immédiatement c'est une invitation à prier. Et quand on regarde les infos, la Vierge Marie le décrit, elle dit on va se rassurer en disant je vais regarder une autre info au cas où c'est moins pire. Et en fait plus on regarde les infos, plus on va plonger parce que c'est pire en fait. Ils vont étudier la guerre sous toutes les coutures, en montrant les gens qui vont pas bien, en montrant le système qui est défaillant, en montrant le vilain dictateur vu que c'est lui le seul coupable, en montrant tout un tas de choses qui vont nous faire plonger dans la désespérance et qui vont nous faire voir uniquement cette fumée noire, en fait. Deuxième remède possible, se sentir investi de cette mission d'intercéder pour beaucoup autour de nous, rien qu'en bénissant les personnes et en nous exerçant à les regarder avec bienveillance et à les aimer. Par exemple, avec cette petite prière de Salomon, le Seigneur a dit vouloir séjourner dans l'obscurité. C'est donc bien pour toi que j'ai bâti cette maison princière, une demeure où tu habiteras toujours. Voilà, Seigneur, je vois le cœur de cette personne en face de moi, où j'ai du mal à voir la lumière dans son cœur, mais eh ben, je t'aide à construire cette maison dans le cœur de la personne, où tu habiteras toujours. Troisième remède, nous n'avons plus le droit de rester en mauvais termes avec qui que ce soit, surtout nos parents, nos responsables, nos enfants, sinon ça va créer un immense blocage dans notre vie. Ça veut dire que si j'en veux encore à ma mère, à mon père, j'ai tout intérêt à répéter, je lui pardonne et je fais la paix avec mon père, avec ma mère, et le répéter jusqu'à ce que ça soit effectif, quoi. Et quand à un moment la blessure est rouverte parce qu'il y a un nouvel événement, et ben je le répète à nouveau. Et dans la confession, peut-être, je peux dire, Seigneur, je voudrais demander de la force pour aider à pardonner, jusqu'à ce que j'ai pardonné. Et tant que je ne l'ai pas fait, ça va être un vrai blocage, en fait. La période d'aujourd'hui est terrible pour ça. Avec nos responsables, et même le président, une des clés, je pense, pour être en paix, c'est de réussir à bénir même le président ou le premier ministre ou le député qui fait des choses qui sont gravement contraires à nos convictions, de dire Seigneur, je n'aime pas ce qu'il fait, mais merci pour lui, bénis-le, aide-moi à l'aimer. Et quand on arrive à avoir cette vision-là, c'est vraiment libérateur parce on voit les choses avec plus de. En fait, on voit la nuée, quoi. C'est comme ça que je le dirais. Quatrième remède, faire réparation, on en parlait. Alors, concrètement, je pense au chapelet de la Miséricorde. Moi, je recommande d'en faire un tous les jours. Ça dure 6 minutes, donc ça va assez vite. Par exemple, à 15 h, l'heure où le Christ est mort, ou à un autre moment. On a aussi la prière qui est donnée dans le petit livret dont je parlais la dernière fois. Précieux sang de Jésus-Christ, sauvez-nous, sauvez le monde entier. Cette petite phrase est intéressante parce qu'elle va compléter les choses incomplètes. J'ai fait un repas où j'ai mangé un peu trop. Ces aliments que j'ai mangés en trop, qui peuvent être une offense par rapport à la justice de Dieu, une offense par rapport à mes frères et sœurs à qui j'aurais pu donner un peu plus d'argent, une offense par rapport à mes frères et sœurs avec qui je ne vais pas être aussi patient, je vais m'irriter plus vite. Eh bien, je vais répéter, précieux sang de Jésus-Christ, sauvez-nous, sauvez le monde entier, jusqu'à ce que je me sente en paix par rapport à ça, parce que le Seigneur, par son sang, a complété ce que j'ai fait, c'est-à-dire de manger un peu trop, et a rendu cette situation parfaite. Il l'a équilibrée et il a fait réparation. Précieux sang de Jésus-Christ, sauvez-nous, sauvez le monde entier. Et puisque la prière parfaite, c'est prier pour moi, mais aussi pour le monde entier. Donc cette petite prière, elle est une force phénoménale pour compléter toutes les choses imparfaites. À chaque fois qu'on voit une imperfection, ou qu'on se dit, tiens, j'ai parlé avec quelqu'un, il y a eu sûrement des imperfections dans cet échange qu'on a eu, et bien je répète plusieurs fois, précieux sang de Jésus-Christ, sauvez-nous, sauvez le monde entier. Et à un moment, cette discussion qui était revêtue de plein de petites imperfections va devenir parfaite. J'ai effacé les traces qui peut-être auraient permis aux esprits mauvais qui sont partout et qui m'entourent, mais il y a aussi des anges partout et qui m'entourent, bien sûr, mais ces esprits mauvais partout et qui m'entourent m'auraient suivi à la trace pour provoquer une colère en moi, ou pour provoquer de l'angoisse, ou pour me faire avoir un carambolage, j'en sais rien. Mais j'ai dit, précieux sang de Jésus-Christ, sauvez-nous, sauvez le monde entier. Du coup, c'est facile. ça a nettoyé toutes les traces que j'ai laissées derrière moi, et en plus, j'ai fait réparation pour le monde. Et puis remercier pour tout ce qui nous arrive, bien sûr, ça fait réparation. Cinquième remède possible, ne pas se précipiter, on en parlait, au risque de se salir les mains et de toucher la montagne. On parlait de la nuée qui s'élève, donc c'est-à-dire l'angoisse. Par exemple, j'apprends par les médias que d'ici 3 semaines, je ne pourrai plus voyager en avion ni en train parce que je n'ai pas de passe sanitaire. Admettons que je ne sois pas en paix pour l'instant avec le fait d'aller dans les centres de vaccination. Eh bien, si je réagis tout de suite, je tombe dans le piège. Retrouver la paix avant de prendre la moindre décision, puisque un des pièges d'aujourd'hui, c'est de croire que je vais aller mieux si je résous mon problème tout de suite. Les médias, en fait, sont champions pour nous donner l'impression qu'il faut résoudre les problèmes tout de suite. Acheter un produit tout de suite. Prendre la décision tout de suite. Pour nous faire miroiter que, par exemple, il n'y aura pas assez de vaccins pour tout le monde. Enfin, je prends l'exemple du vaccin, mais il y a plein de sujets comme ça. Il faut tout de suite prendre position. Je pensais à cette guerre en Ukraine. Les médias nous donnent l'impression qu'il faut prendre position très vite, en fait. Alors que pas forcément. On peut se donner un temps en disant, bon bah, ok, il se passe ça, j'ai eu un son de cloche, je vais prendre le temps de réfléchir. Le Seigneur va montrer à quel moment réagir, au moment où je retrouve la paix, et c'est là que je suis appelé à monter sur la montagne sans risque, et pour dire, bah, voilà, je connais des personnes qui ont dit, moi, le Seigneur m'a répondu dans ma prière qu'il fallait que j'aille me faire vacciner. Et j'ai pas eu de soucis de santé particuliers, ça s'est bien passé. Et puis d'autres qui ont dit, j'ai reçu dans ma prière qu'il faut pas, parce que moi je suis appelé à ça. Et puis accepter que les autres aient un chemin différent, je dirais, en fait. Que le Seigneur, il est au-dessus des solutions X ou Y, en fait. Mais il demande simplement qu'on utilise le temps qu'il a donné pour avancer pas à pas et pour, au moment venu, prendre la décision qui s'impose. Sixième remède, nous exercer à nous défaire peu à peu de nos idoles, on en parlait tout à l'heure. Le Seigneur aime quand on fait des petits efforts, même si c'est des tout petits efforts, surtout s'ils ne se voient pas. Par exemple, quand on n'ajoute pas de sel dans un plat, par exemple quand on parle un tout petit peu moins, quand on diminue même de quelques minutes les écrans, ou quand on rallonge de quelques minutes un temps de prière, quand on met son téléphone hors connexion à 21h le soir. Voilà, des petites choses que les autres ne vont pas voir. Et ben ces trucs-là, ils sont géniaux parce que c'est des efforts, je dirais, qui vont porter beaucoup de fruits dans la période d'aujourd'hui. Et qui sont pas, en fait, qui vont nous encourager à continuer ces mini-efforts et à en faire d'autres, d'une autre nature, et puis à avancer, quoi. Et ça va nous défaire peu à peu de nos idoles. Nous exercer à l'humilité, c'est le dernier point que je voyais. Alors, pour l'humilité, j'avais 4 éléments pour l'humilité. Possibles, qui peuvent aider, mais il y en a sûrement d'autres. Le premier, c'est d'éviter tout bras de fer, c'est-à-dire de réussir à sentir quand on est en prise avec quelqu'un. Parce que quand on lâche l'affaire face à une personne avec qui on n'est pas d'accord, d'arriver à dire « Seigneur, occupe-toi de cette personne, fais-lui comprendre », c'est vraiment une immense force. De dire, après tout, que ça soit bien ou pas, je vais essayer de ne pas faire de bras de fer, quelque part de croire que le Seigneur il me donnera un moment, au bon moment, pour que la situation se retourne. Si c'est mon responsable qui me demande quelque chose d'horripilant, peut-être je peux lui dire d'une manière douce, est-ce que tu as pris en compte tel élément? C'est-à-dire que je suis pas en train de le contredire, je suis juste en train de dire je vais faire, je voudrais juste savoir si tu savais que. Voilà, ça on a le droit de faire ça. Mais dans la lettre aux Philippiens, il est dit que quand on obéit, on devient aussi brillant que les astres de l'univers. Et je pense que notre période d'aujourd'hui est vraiment comme ça. J'obéis, donc mon responsable va être touché. Ou mon conjoint, ou mes enfants, en fait. Enfin, si je sens qu'ils me demandent quelque chose et que, après tout, il n'y a pas d'enjeu fondamental à dire oui ou non, mais que je vais obéir tout de suite... je vais les toucher, c'est comme si leur foi allait augmenter, quoi, par le fait que je sois docile. Deuxième petit élément pour l'humilité, des prières de consécration, par exemple à la Vierge Marie ou la prière de Charles de Foucault. Mon Père, je te remercie pour tout ce qui m'arrive, qui peut être un peu difficile à dire quand on est maître de sa volonté. Troisième possibilité, bon, des prières comme des psaumes, par exemple le psaume 130-131. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux, je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse, mais je tiens mon âme égale et silencieuse, mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Et puis dernier point, les prières contre Moab, qui sont un ennemi spécialiste de la volonté de faire, quoi. Et faire les prières contre Moab, c'est une manière de dire, Seigneur, viens me débarrasser de cette tentation de toujours vouloir avoir raison, de toujours vouloir résister, de toujours contredire, et de ne pas accueillir les choses avec la simplicité d'un enfant qui va dire, ah, bon, très bien. Il pose une question, et du moment qu'on lui répond, même si c'est une explication qui est pas forcément, qui peut être un peu douteuse, et il va dire, ah, très bien, merci. On lui aura répondu, quoi. On est docile. Alors Moab, c'est Isaïe chapitre 15-16, Isaïe chapitre 25-26, Jérémie 48, Ézéchiel chapitre 25, versets 8 à 11, Amos chapitre 2, versets 1 à 3, Sophonie chapitre 2, versets 8 à 11, Juges chapitre 3, versets 12 à 30. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.